Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique et technologique. C'est Biotine qui vous est proposée sur l'antenne de Graphite, sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet et sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Sur donc internet graphite.net, vous avez la possibilité aussi de pouvoir récupérer les podcasts avec donc l'idée de pouvoir écouter Biotine, mais aussi toutes les autres émissions de Graphite, quand vous le souhaitez, où que vous soyez. C'est tout l'intérêt, bien sûr, de ce site internet et des podcasts qui vous sont proposés. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 26 octobre, pour cette donc émission de Biotine de ce samedi 26 octobre. On va faire le point sur les prix Nobel qui ont été attribués il y a à peu près 15 jours, je crois, et on n'a pas eu le temps jusqu'à maintenant de pouvoir évoquer les prix Nobel. Donc tous les ans, on a toujours une émission spéciale prix Nobel pour s'arrêter un petit peu sur les travaux de recherche qui ont été récompensés par ce prestigieux prix. Ça va être essentiellement le sujet de cette émission d'aujourd'hui, 26 octobre, dans l'éphéméride. Le 26 octobre 1671, à peine installé à l'Observatoire Royal, qui était encore en plein chantier, Cassini découvre déjà le second satellite de Saturne qui s'appelle Jappé, enfin qu'on aura appelé par la suite Jappé. C'était en 1671. Beaucoup plus près de nous, il y a 3 ans, le 26 octobre 2016, le tombeau de Jésus, localisé selon une tradition chrétienne au Saint-Sépulcre, est ouvert pour la première fois depuis 1810. C'était il y a 3 ans. Au niveau de l'éphémérie, toujours une naissance, celle de Stephen Kern Robinson, astronaute américain. Il est né le 26 octobre 1955, c'est son anniversaire, il a 64 ans aujourd'hui. Il a été notamment vétéran de 3 vols de navette Discovery. Au niveau des décès, il est mort cette fois en 1828, un 26 octobre, c'est Albert Thayer. Il est considéré comme l'un des fondateurs de l'agronomie. C'était un Allemand. Il décrit de manière approfondie la composition, les propriétés et aussi l'extractabilité, donc le fait de pouvoir extraire l'humus, donc la terre. Il est l'un des principaux développeurs de la théorie de l'humus qu'il expose dans les Principes raisonnés d'agriculture qui sont publiés en 1809. En fait, la théorie de l'humus postule que les plantes obtiennent la majorité de leur matière sèche à partir de cet humus présent dans les sols et que les besoins des plantes en ce qu'on appelait à l'époque suc nutritif, donc pour pouvoir justement se nourrir, eh bien tout ça, ces besoins varient en fonction de l'espèce. Néanmoins, Albert Thayer accepte l'idée que les plantes utilisent plusieurs sources de carbone, dont le gaz carbonique qui est présent bien sûr dans l'air et l'atmosphère du sol également. Mais il insiste sur l'importance de la gestion de la matière organique des sols, vue comme la principale source de la fertilité justement de ces sols. C'est un petit peu le travail de cet agronome allemand Albert Thayer. Cette théorie reste très populaire jusque dans les années 1840, avant d'être invalidée notamment par les travaux de Karl Sprengel, qui sera son ancien élève et qui va un petit peu le contredire. Et enfin, Albert Thayer contribue également au développement des cultures de la pomme de terre et de la betterave à sucre, en Prusse notamment. Il participe à l'amélioration génétique des moutons et au développement de plusieurs outils agricoles. Donc voilà, un agronome de renom, Albert Thayer, mort le 26 octobre 1828. Ça, c'est l'éphéméride. Vous savez que l'année 2019 est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, ce fameux tableau qu'on avait dans nos salles de classe, et tous les éléments chimiques sont classés justement dans ce tableau. Et bien, toutes les semaines, dans Biotine, on remplit une case, et aujourd'hui on va remplir la case numéro 4. Alors on se dit que le numéro 1 c'était l'hydrogène, le numéro 2 c'est l'hélium, et on se dit que numéro 4 ça va être quand même quelque chose qu'on connaît. Eh bien le 4 c'est le béryllium. Alors franchement, le béryllium est quand même un élément qu'on connaît très peu. C'est un matériau léger qui est doté quand même d'une grande résistance mécanique, et il est également très résistant à la corrosion et à la chaleur, et c'est pour ça qu'on va l'utiliser notamment dans les boucliers thermiques des fusées, le béryllium. Et quand on va allier le béryllium au cuivre, eh bien, il empêche la formation d'étincelles, ce qui en fait un matériau de choix pour l'outillage dans les industries pétrolières et gazières, parce que s'il y a une petite étincelle, bien sûr, ça cause une catastrophe. Donc on met du béryllium, on l'associe avec le cuivre. Et ça va pouvoir justement un petit peu améliorer les conditions et la sécurité de ces entreprises. Et on va également associer le beryllium dans les clubs de golf un petit peu high-tech. Hein. Ce n'est pas nos petits clubs de golf, de mini-golf, de camping. Hein. Non, là, dans les grands clubs de golf, eh bien, on va pouvoir utiliser ce beryllium. L'émeraude, qui est quand même une pierre précieuse qu'on connaît de couleur verte, c'est une variété de béryl. C'est-à-dire que cette coloration, elle provient un petit peu de certaines impuretés qu'il y a et qui donnent cette couleur verte. Et en 1695, en Inde, il y a une pierre qui pèse plus de 43 grammes qui a été découverte. On l'a acheté 2 200 000 dollars. Tu m'étonnes, c'est tellement énorme. Ce sera un abbé, l'abbé René Juste Haouy, qui a observé l'analogie géométrique des cristaux d'émeraude et de béryl. Et il va essayer d'en réaliser l'analyse à Nicolas Vauquelin. Et du coup, il va pouvoir nommer cet oxyde de beryllium de ce nom-là, en fait. On va l'appeler glucinium, ce qui veut dire en grec douceur, parce qu'on trouvait que c'était joli, que c'était doux. Vous savez que des fois, les noms qu'on associe, finalement, on comprend un petit peu mieux pourquoi par la suite. Mais voilà, c'est donc ce beryllium qui a été découvert, et notamment isolé un petit peu plus tard, en 1828. La case numéro 4, voilà, c'est le numéro atomique de ce beryllium, symbole chimique grand B, petit e. Mais voilà, je trouve que c'est un élément chimique qu'on connaît très peu, le beryllium. Franchement, quelque part, on n'entend jamais parler autant. Le carbone, le plomb, l'oxygène, tout ça, oui, d'accord. Le beryllium qui est quand même haut placé dans ce tableau périodique des éléments est finalement très peu connu et on a donc des utilisations, vous l'avez compris, notamment pour les fusées et dans les industries chimiques et notamment pétrolières et gazières. On retrouvera tout à l'heure Anne Fleur qui nous emmène un petit peu partout dans le monde. On verra ça dans cette émission. Elle choisit une ville ou un pays au hasard et elle nous explique un petit peu les inventions qui ont été créées. Ce sera Anne Fleur également dans sa chronique que nous retrouverons au cours de cette émission. Avant de poursuivre, je voulais juste m'arrêter sur l'annonce du décès, c'est il y a 15 jours, d'Alexei Leonov. Il avait 85 ans. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Ce cosmonaute était alors pilote de la mission Vostok 2. Il est rentré dans l'histoire en devenant le premier homme à sortir dans l'espace, ce qui est quand même assez, ironique le destin. Il entre dans l'histoire quand il sort, lui, dans l'espace. C'est en 1965, une mission réussie, malgré quelques difficultés rencontrées, notamment avec sa combinaison, et une expérience, bien sûr, qui l'a marqué à tout jamais. Alors il dit, quand il est revenu, on lui a demandé un petit peu qu'est-ce qui l'a frappé le plus, et en fait, il explique que c'est le silence. Un silence impressionnant, lourd, profond. Il parle aussi de la Terre, si petite, bleue, claire, attendrissante, esselée, dit-il, notre demeure. Il fallait que je la défende comme une sainte relique. C'est ce qu'il explique. Un peu plus tard, en 1975, Alexei Leonov avait également participé à la première mission spatiale américano-soviétique, la mission Apollo-Soyuz. C'est lui que l'on a vu serrer la main de l'astronaute américain Tom Stafford lorsque l'écoutille séparant les deux vaisseaux s'est ouverte après leur rassemblement en plein vol. Alexei Leonov, voilà, grand nom de l'aventure spatiale, premier homme à être sorti dans l'espace et donc décédé il y a 15 jours. Et on devait, dans cette émission, bien sûr, honorer sa mémoire. On écoute un peu de musique et on continue à feuilleter l'actualité scientifique en s'arrêtant, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, pour cette émission un peu particulière sur l'attribution des prix Nobel. À tout de suite.
Take bad habits. Black thoughts run through my mind. Things will be alright. Drowning to whiskey will be fine.
C'était Masto avec Wadey sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et donc, on fait une émission un petit peu spéciale, prix Nobel. Alors, c'est pas toujours simple hein, de parler des prix Nobel parce que c'est en général toujours lié à des travaux de recherche, certes intéressants, cruciaux dans certaines circonstances, dans certains travaux de recherche, bien sûr, mais pas toujours facile à expliquer à la radio, en fait. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Alors, commençons par le prix Nobel de médecine, qui est peut-être le plus simple, et encore, j'ai pas trop l'impression quand on lit cet article de Futura Science qui nous explique un petit peu les travaux de recherche de ces lauréats. Donc, trois personnes ont été récompensées par le prix Nobel de médecine. Il s'agit de William Kaelin Jr., de Sir Peter Radcliffe et de Greg Semenza. Ils ont été récompensés pour leur découverte sur la façon dont les cellules perçoivent et s'adaptent à la disponibilité en oxygène. En clair, ils ont essayé de comprendre comment des cellules s'adaptent à l'absence d'oxygène. Ils ont dévoilé les mécanismes moléculaires qui vont réguler l'activité génétique en réponse justement à une variation du niveau d'oxygène présent, et leurs travaux expliquent ainsi un procédé d'adaptation essentiel des cellules. Et ces travaux octroient de nouvelles possibilités pour combattre l'anémie, les cancers et d'autres maladies qui impliquent la perception cellulaire de l'oxygène. Alors, qui sont précisément ces trois lauréats du prix Nobel de médecine 2019? Donc, je vous l'ai dit, William Kaelin Jr. est professeur de médecine à l'université d'Harvard. Il est spécialisé en oncologie, donc c'est l'oncologie, la médecine pardon, qui traite le cancer. Il avait déjà reçu des prix sur ses recherches, notamment un prix attribué aux personnes réalisant des avancées majeures en médecine. Et donc, il travaille notamment sur les protéines suppresseurs de tumeurs. Le deuxième, Sir Peter Radcliffe, il est docteur, biologiste cellulaire et moléculaire à l'hôpital de l'université d'Oxford. Son prix Nobel récompense ses travaux sur les réactions cellulaires à l'hypoxie, c'est-à-dire quand la cellule se trouve dans un approvisionnement assez insuffisant d'oxygène, et notamment dans une partie ou dans la totalité du corps. Et donc, lui a pu essayer de comprendre la réaction des cellules quand elles se trouvent dans une situation où l'oxygène est en train de manquer. Le troisième, c'est Greg Semenza. Il était déjà connu pour sa découverte d'un facteur de transcription qui permet aux cellules cancéreuses de s'adapter aux environnements pauvres en oxygène. Donc, vous avez bien compris qu'on tourne toujours autour de ces cellules qui se retrouvent dans des situations un peu critiques vis-à-vis de la présence et l'approvisionnement en oxygène. Et certaines, du coup, de ces cellules deviennent des cellules cancéreuses. Et donc, lui, il avait pu essayer de comprendre comment ces cellules cancéreuses s'adaptent à ces situations pauvres en oxygène. Greg Semenza est notamment professeur de médecine génétique, de chimie biologique, de médecine, de pédiatrie, de radio-oncologie et également de radiation moléculaire. Il a quand même un bagage assez important. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il est décerné ce prix Nobel pour leur explication du mécanisme moléculaire qui va encadrer la réponse de la cellule quand elle se trouve à une variation d'oxygène et plus précisément, comme on l'a compris, quand elle se trouve plutôt dans une situation où l'oxygène commence à manquer. Et du coup, on se rend compte qu'ils ont travaillé un petit peu chacun d'une façon indépendante et sur des systèmes un peu différents, mais quelque part, ça va converger vers des révélation de mécanismes de ces cellules un petit peu communes, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à comprendre ensemble qu'ils travaillent sur la même chose, qu'ils vont pouvoir identifier des facteurs, des zones de l'ADN qui sont impliquées justement dans cette réaction cellulaire pour essayer bien sûr de comprendre un peu comment cette cellule réagit pour ensuite, bien évidemment, essayer de trouver des traitements leur permettant un petit peu de pouvoir, on est dans l'idée de pouvoir développer des thérapies justement pour améliorer les conditions de ces cellules. Si on sait, si on comprend comment elles fonctionnent, comment elles réagissent face à une absence d'oxygène, on peut essayer de pouvoir faire en sorte qu'elles réagissent autrement, bien évidemment. Et quand on parle de ça, on peut parler bien sûr de la prolifération des tumeurs. Donc voilà, ils ont travaillé dans les années 1990-2000 et ils ont été donc récompensés tous les trois par ce prix Nobel de médecine et de physiologie. Voilà, chacun a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice de ces trois prix Nobel de médecine 2019. Comment les cellules s'adaptent à l'absence d'oxygène, c'est la thématique de ce prix Nobel. On fera un autre point sur les deux autres prix Nobel de physique et de chimie, pardon. Mais je voulais m'arrêter un petit peu sur ce qu'on entend un petit peu dans les médias depuis un certain temps avec un peu cette alarme vis-à-vis des dangers des cigarettes électroniques où on commence à lire qu'il y a, aux États-Unis notamment, non plus une poignée de personnes qui sont décédées, mais maintenant on parle de plusieurs dizaines de personnes décédées apparemment de ces cigarettes électroniques qui sont des produits bien sûr commerciaux qui sont alternatifs aux cigarettes un petit peu classiques qui contiennent du tabac. Alors, rappelons un peu le fonctionnement, c'est-à-dire que ces cigarettes électroniques, elles ne génèrent pas de combustion, mais une espèce d'aérosol qu'on peut inhaler, qui contient de la nicotine, des arômes, du propylène glycol, de la glycérine végétale. Et pour bien appréhender justement cette question, il faut se souvenir qu'il faut toujours essayer d'avoir en considération une espèce de balance entre ce qu'il y a comme bénéfice d'un côté et ce qu'il y a comme risque de l'autre pour pouvoir aborder les problèmes sanitaires. C'est-à-dire que, soyons objectifs, si on ne fume pas de cigarettes électroniques, ben c'est mieux que d'en fumer. Je veux dire, à un moment, il faut avoir aussi un certain bon sens et que le discours disant que ben c'est bien de passer par la cigarette électronique, oui, ça vous permet peut-être de pouvoir éviter de fumer des cigarettes avec du tabac, bien sûr. Mais enfin, si vous ne fumez pas du tout, c'est peut-être encore mieux. En tout cas, on se pose des questions parce que... on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien entre une cigarette classique et une cigarette électronique. Est-ce que la cigarette électronique est moins dangereuse, plus dangereuse ? Est-ce que c'est utile un petit peu de s'en servir pour essayer justement d'arrêter la nicotine ? Les produits que la cigarette électronique émet, elles sont loin d'être anodins. Enfin, je veux dire, on est quand même sur des carbonyles volatiles, c'est-à-dire qu'il y a des métaux également qui sont un peu toxiques pour les poumons, voire plus, qui sont produits également par ces cigarettes électroniques. Alors, il y a un article qui se trouve dans Science et Vie qui essaye un petit peu de faire le point sur l'actualité de la recherche, en tout cas l'avancée de la recherche dans ce domaine-là. Et voilà ce que disent donc des chercheurs sur l'état de l'art entre les problèmes respiratoires et les cigarettes électroniques. Alors, il existe encore, et c'est toute la problématique, et c'est pas la première fois que je vous en parle, on a très peu de recul, en fait, pour pouvoir juger de la sûreté de ces cigarettes électroniques sur le long terme. C'est trop récent, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas eu le temps de faire une analyse concrète pour voir si c'est bien ou pas. Donc on s'est lancé tout de suite et puis on a dit on verra plus tard. Donc là on commence à être un petit peu plus tard et on commence à voir les résultats. Les scientifiques possèdent un faisceau de preuves qui combine des études à la fois épidémiologiques de la population, des expériences sur des animaux, des expériences qui ont été réalisées sur des cultures de cellules in vitro également. Et il y a des corrélations qui sont apparues entre la cigarette électronique et la toux chronique également, la respiration sifflante, la bronchite, chronique, la maladie pulmonaire obstructive chronique également, l'asthme également qui existe. Pour les fumeurs qui sont passés à la cigarette électronique, les études sont contradictoires quant aux bénéfices attendus par la cessation de la cigarette classique, on va dire. Enfin, fumer la cigarette électronique pourrait causer des lésions aiguës, des petites voies respiratoires, également des pneumopathie, d'hypersensibilité et également d'autres maladies alvéolaires qui peuvent affecter le processus de certaines cellules immunitaires. Bref, il est évoqué le cas notamment de la maladie des États-Unis où les chercheurs affirment que la responsabilité de la cigarette électronique ne peut être tenue pour certaines pour l'instant, compte tenu d'autres éléments suspects évoqués qui avaient déjà été identifiés auparavant. En tout cas, il y a eu des études animales qui ont été réalisées, comme je l'ai dit. Il y a des études sur des cultures in vitro également qui révèlent une augmentation de l'inflammation au niveau des poumons. On révèle aussi plein d'autres choses également. Et certaines études, pas la majorité de ces études, sont financées, il faut le savoir, par l'industrie du tabac. Alors, ça rajoute encore une suspicion supplémentaire parce qu'on se dit que l'industrie du tabac possède bien sûr un intérêt économique majeur à démontrer que la cigarette électronique, elle est aussi nocive que leur propre cigarette, quelque part. Donc, ça rajoute encore de la confusion, si bien qu'aujourd'hui, on est clairement dans une totale incertitude sur les effets de la cigarette électronique sur la santé. Et il est encore en clair trop tôt pour savoir précisément ce qu'il en est. Selon les chercheurs, plusieurs questions doivent faire l'objet d'études et donc captiver l'attention de la communauté scientifique. Alors ces questions, c'est est-ce que la nicotine qu'on va inhaler, elle provoque une toxicité pulmonaire directe ? Quelle est l'importance dans les maladies pulmonaires de certains macrophages qu'on utilise associés à la cigarette électronique. Est-ce que cette cigarette électronique a des effets néfastes sur le développement des poumons chez les adolescents? Quel est l'effet du vapotage sur les populations vulnérables, c'est-à-dire celles qui sont atteintes de maladies préexistantes, comme par exemple l'asthme, les maladies pulmonaires chroniques également? Donc où est-ce que ça en est? L'utilisation enfin de la cigarette électronique entraîne-t-elle une immunosuppression, c'est-à-dire une diminution du système immunitaire? Toutes ces questions, les réponses pour l'instant, elles sont pas nombreuses, elles sont peu satisfaisantes et ça devrait encore occuper, bien sûr, les scientifiques encore quelques années. Donc, Donc voilà l'état actuel de la situation. On n'en sait rien et c'est tellement flou qu'en fait, quelque part, on n'a même pas de conseil, entre guillemets, qui nous est lancé. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr miser sur la prévention pour éviter que la population ne fume sous quelque forme que ce soit. C'est pour l'instant le sujet numéro un, en tout cas la solution de prévention numéro un qui est utilisée. Mais voilà, il y a un vrai doute et ce n'est pas la première fois que je vous en parle dans cette émission parce que il y a déjà 2-3 ans, on commençait à avoir des premiers articles qui apparaissaient et qui montraient que certains produits qui étaient dégagés par ces cigarettes électroniques semblaient avoir des effets nocifs. Alors il y avait certains produits qui avaient été carrément interdits, d'autres existent encore, d'autres sont utilisés dans les cigarettes électroniques et aujourd'hui, vous l'avez compris, eh bien on a vraiment un doute sur l'utilité, ou en tout cas l'efficacité, l'innocuité, je vais y arriver, de ces cigarettes électroniques. Voilà. C'est pas du tout rassurant tout ça, je vous ai bien plombé l'ambiance, je suis très fier de moi. On va écouter peut-être Anne Fleur qui va nous remonter un petit peu le moral et nous redonner le sourire. Anne Fleur, elle choisit une ville, un pays et puis elle nous explique un petit peu les inventions qui ont été créées. Je ne sais pas où elle nous emmène cette fois-ci, mais je pense à mon avis qu'on va partir bien loin. C'est à toi Anne Fleur, bonjour.
Good morning, biotineuses et biotineurs. Bonjour Jean-Noël, hello tout le monde. Alors, c'est Anne Fleur, je vous parle en direct de Boston, mais où est-ce que je vous amène aujourd'hui? Je vous rappelle le concept, donc je vous amène dans un coin du monde et puis on discute de ces inventions et innovations qui y ont vu le jour. Aujourd'hui, je vous amène dans un coin qui, pour moi, paraît assez important pour le week-end. Je m'explique. Moi, personnellement, surtout depuis que je suis devenue maman, j'ai énormément de mal à émerger le week-end, sauf que mon fils n'en a absolument rien à cirer et qu'à 6h du mat, je dois être debout. Du coup, je consomme énormément de café. Aujourd'hui, nous partons en Colombie. Alors, le saviez-vous, en 2012, il y a eu une étude qui a été faite par le Happy Planet Index, HPI, pour mesurer l'indice de bonheur mondial. Et après avoir donc étudié les différents pays qui étaient pris en considération, eh bien la Colombie a été démontrée comme étant le pays le plus heureux du monde. Alors moi personnellement je m'y attendais pas, je sais pas à quel pays j'aurais pensé, mais j'aurais pensé peut-être à un pays un peu plus occidentalisé. Comme quoi. Et donc aujourd'hui nous allons parler donc de différentes inventions. Le premier dont je vais vous parler est une méthode que moi j'ai découverte à nouveau en devenant maman, ça s'appelle le Kangaroo Care, donc c'est la méthode kangourou. La méthode kangourou en fait elle consiste à porter son enfant directement sur le ventre ou en peau à peau, que ce soit pour la maman initialement comme ça a été un peu documenté, mais aussi pour le papa. Ça permet de tisser des liens affectifs certes, mais aussi en fait de réguler et d'aider donc le nouveau-né qui lutte quand même, hein, parce qu'il passe d'un milieu aqueux à un milieu aérien en assez peu de temps. Et donc, on l'aide en fait à réguler sa température et donc ainsi à s'adapter plus facilement à son nouveau milieu de vie. Cette méthode, elle a été donc créée en 1978 par le docteur Edgar Ray Sanabria. Et donc, ça nous vient tout droit de Colombie. Et moi, je dis merci à la Colombie parce que c'est une méthode absolument fantastique. La deuxième invention dont je vais vous parler, c'est une méthode de relaxation qui est basée sur le yoga. Je vais vous parler de sophrologie. Cette méthode a été développée par le professeur Alfonso Caicedo. Je n'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, donc je suis désolée si je massacre le mot ou le nom. Donc ce fameux professeur Caicedo, c'est un neuropsychiatre colombien. Et dans les années 60, en fait, il a essayé de chercher de développer une technique pour aider ses patients à être plus sereins dans leur vie quotidienne. Si on reste un peu dans le domaine de la médecine, il y a la troisième invention que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Et à nouveau, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne de Colombie. C'est le vaccin contre le paludisme. C'est donc un Colombien dans les années 80, en 1986 exactement, qui a développé ce vaccin. Et donc le paludisme, c'est une maladie qui affecte la majorité des populations les populations de régions tropicales d'Afrique, d'Asie et donc d'Amérique du Sud. Elle est transmise en fait par une piqûre de moustique. Ce vaccin, c'est aussi une grande innovation parce que c'est le premier vaccin synthétique. Et ça veut dire quoi? Donc que c'est beaucoup moins cher à produire qu'un vaccin ordinaire puisque sa fabrication ne nécessite pas de culture d'organismes vivants. Donc voilà, donc une double innovation et puis un sacré service rendu à la planète. Et enfin, la cinquième innovation dont je vais vous parler, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'adorerais faire. C'est la chirurgie pour les yeux. On appelle ça le LASIK, L-A-S-I-K. Je ne sais pas si Jean-Noël, tu es déjà passé par là. C'est
jamais.
C'est une chirurgie réfractive qui permet de corriger les maladies des yeux, comme la myopie, donc quand on ne voit pas bien loin, l'astigmatisme, l'hypermétropie, etc. etc. Et en fait, du coup, ça permet au patient de ne pas avoir à porter ni de lunettes ni de lentilles, et donc ça change la vie. Aujourd'hui, le LASIK, en fait, c'est un procédé qui est procédé qui est utilisé pour opérer les yeux le plus dans le monde. Donc voilà, ça vient aussi de Colombie. Donc si je résume, on dit merci aux Colombiens pour le pot à pot, la sophrologie, le vaccin contre le paludisme et la chirurgie pour les yeux. Alors un grand merci à la Colombie, ça me donne encore plus envie d'aller visiter ce pays que je ne connaissais juste jusqu'à ce matin, je l'avoue, que pour le café. Bonne journée.
Et puis merci aussi Anne Fleur qui nous a emmené donc en Colombie. Allez, un peu de musique et on se retrouve juste après. On va parler du prix Nobel de chimie, je crois. C'est une chance sur deux. Chimie ou physique. Juste après The Burns sur l'antenne des Graphites. À tout de suite. The Burns sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on va faire un point. Donc aujourd'hui, 15 jours après l'attribution des prix Nobel, cette fois donc sur le prix Nobel de chimie qui récompense les inventeurs de la batterie lithium-ion. Ah, la batterie lithium-ion. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on y en soit question. Elle se cache dans le téléphone portable, dans nos ordinateurs, dans nos voitures. voitures électriques. Il y a certains qui l'imaginent même jouer un rôle majeur dans notre transition vers un recours assez massif aux énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, en tout cas pendant ce mois d'octobre, elle a été mise à l'honneur, cette batterie lithium-ion. En effet, ce sont trois pionniers du développement de cette technologie qui ont été désignés lauréats du prix Nobel de chimie 2019. Il y a John Goodenough des États-Unis, Stanley Whittingham pardon, du Royaume-Uni et Akira Yoshino du Japon. Alors, de quoi parlons-nous ? On parle du lithium, qui est le métal le plus léger que nous connaissions, un atout indéniable pour pas mal d'applications, mais il est aussi extrêmement réactif, ce qui est un peu une faiblesse. En fait, une faiblesse qui, finalement, va s'avérer être une force, parce qu'il est en fait assez réactif et donc il va pouvoir libérer son électron de valence qui, ça va vite intéresser ceux qui cherchaient des solutions de remplacement aux énergies fossiles. Va pouvoir donc libérer cet électron, circulation d'électrons, création d'électricité en clair. L'histoire de la batterie lithium-ion commence dans les années 1970 avec donc les travaux de Stanley Whittingham, parti de l'université de Stanford aux États-Unis pour rejoindre le géant du pétrole Exxon en 1972. Il propose un schéma de batterie révolutionnaire, une première batterie au lithium capable de fournir 2 volts. Eh bien, c'est bien plus que les autres batteries disponibles à l'époque, c'est une vraie révolution. À la base, dans une batterie, il y a une cathode et une anode. C'est un petit peu les deux électrodes qu'on va utiliser. La cathode utilisée, elle contient du titane et ça va lui permettre justement, ce titane, de pouvoir accueillir ces fameux ions lithium. Et avec son équipe, eh bien, Stanley Whittingham avait au préalable découvert que si on intercale des ions dans une espèce de sulfure un petit peu métallique, donc une espèce de conditionnement un petit peu particulier, eh bien on va pouvoir augmenter sa densité d'énergie. Et donc l'anode de la batterie de Stanley Whittingham, elle est composée de lithium métallique en raison justement, comme je vous l'ai dit, de sa faculté à pouvoir céder assez facilement des électrons. Mais ce lithium métallique, il est trop réactif, il pose des problèmes de sécurité et donc du coup on va renvoyer la batterie dans les laboratoires hein, parce qu'on a un petit peur de court-circuit qui vont être à l'origine de plusieurs incendies. Et donc, pour essayer de résoudre ce problème dans l'urgence, eh bien, on va glisser de l'aluminium entre les deux électrodes. C'est bien, mais pas sans plus, quoi. En clair, on a compris qu'il va falloir trouver une autre solution. Et donc, c'est un petit peu plus tard, 10 ans après, 1980, John Goodenough se tourne vers un oxyde métallique cette fois, et c'est l'oxyde de cobalt qu'il va utiliser pour construire sa cathode. L'idée, en fait, son espoir, c'est de pouvoir apporter de la puissance supplémentaire à sa batterie, et ça fonctionne parce qu'il va développer une batterie au lithium de 4 volts. Donc on passe de 2 à 4. Tout ça sans ajouter du poids au système. Donc c'est franchement un pas décisif vers l'électronique sans fil. Mais il va falloir encore attendre un petit peu, 1985, pour que le troisième, Akira Yoshino, propose une solution au problème du lithium métallique, qu'on utilise encore toujours pour fabriquer ses anodes. Il va le remplacer par un produit qui nous vient de l'industrie du pétrole, avec un matériau plutôt carboné, qui va permettre justement de donner des zones, des intervalles dans lesquels les ions du lithium vont pouvoir se loger. C'est ainsi qu'est née la toute première batterie lithium-ion commercialisable. Une batterie légère, résistante et qui peut être chargée des centaines de fois sans que ses performances ne se détériorent trop. Et lorsque les batteries qui sont imaginées par Akira Yoshino sont arrivées sur le marché, nous sommes au début des années 1990, et bien c'est toute l'électronique qui a été révolutionnée et miniaturisée. Elles ont, bien sûr, depuis encore été améliorées, bien évidemment. Mais voilà, ce sont les trois pionniers. Aujourd'hui, la technologie, elle investit les véhicules électriques. Demain, elle pourrait nous aider à intégrer les énergies renouvelables intermittentes, comme l'éolien, le solaire, notamment à notre mix énergétique pour le rendre ainsi plus durable. Bref, la tradition des prix Nobel veut que les découvertes apportent un grand bénéfice à l'humanité. Là, on est clairement dedans avec donc ces inventeurs de la batterie lithium-ion qui ont été récompensés par le prix Nobel de chimie 2019. On fera tout à l'heure le prix Nobel de physique. Du coup, c'est le troisième qui nous manque. mais je voulais vous emmener dans l'espace. Parce qu'à un moment, il faut quand même savoir ce qui se passe un petit peu là-haut. D'autant que l'article de Futura est quand même assez étonnant, en tout cas le titre de cet article, qui nous explique que les cosmonautes qui sont au bord de la Station Spatiale Internationale, ils ont dégusté de la viande imprimée en trois dimensions. Alors, quand on voit un article comme ça, on se dit, mais de quoi ça parle ? C'est-à-dire que cette idée qu'on se dit, tiens, les cosmonautes, ils pourraient savourer une espèce de rôti dans l'espace, eh bien, cette idée, cette perspective, elle est devenue un peu moins théorique quand on a appris donc la création de viande à bord donc de la Station Spatiale Internationale, tout cela à l'aide d'une imprimante en trois dimensions, une imprimante 3D. Partie prenante à l'expérience, eh bien, une entreprise russe de technologie médicale qui a expliqué il y a quelques jours que l'imprimante utilisée a permis de produire de façon artificielle des tissus de bœuf, de lapin, de poisson, en utilisant des champs magnétiques en microgravité, donc la situation qui se passe dans la Station Spatiale Internationale. Les tests ont été menés en septembre par un cosmonaute, Oleg Skripochka, qui est au sein de l'équipe russe de la Station Spatiale Internationale. L'imprimante 3D utilisée est de fabrication russe, tandis que les cellules biologiques ont été fournies, elles l'ont été fournies par des compagnies américaines et israéliennes. Selon les meneurs du projet, il s'agit de la première fois qu'une petite quantité de viande artificielle a été créée en conditions d'apesanteur. Alors, une conférence de presse. Et j'aime beaucoup ce mot de ce responsable du laboratoire Moscovite qui a donc fourni cette imprimante 3D et qui dit « c'est une petite bouchée pour l'homme et une grosse bouchée pour l'humanité ». Oui, il aurait pu trouver autre chose, bien sûr. C'est en tout cas, d'un point de vue de marketing, pas mal. En tout cas, les occupants de la Station Spatiale Internationale consomment de la viande à bord, mais celle-ci a d'abord été emballée sous vide ou elle a été séchée sur Terre. Et donc, cette nouvelle technologie pourrait à terme servir au voyage dans l'espace lointain. Si nous nous envolons vers d'autres planètes du système solaire, on ne peut pas emporter une grande quantité de nourriture avec nous. Et donc, on pourra cultiver, produire de la nourriture à bord du vaisseau. C'est ce qu'explique justement ce haut responsable du secteur spatial russe. La création de quantités plus larges de viande à bord de la Station Spatiale Internationale nécessitera toutefois un équipement un peu plus complexe que l'imprimante actuelle. Il y a d'autres agences spatiales qui mènent aussi des expériences sur la production artificielle de tissus, car leur fabrication est plus facile dans l'espace que dans des conditions de gravité. Une imprimante 3D américaine a été transportée vers la Station Spatiale Internationale en juillet pour produire des tissus humains. Elle est également utilisée par l'Agence Spatiale Européenne. Bref, on a commencé à déguster de la viande imprimée en 3D dans la Station Spatiale Internationale, et c'est qu'un début. Parce que l'idée, voilà, c'est tout simplement de se dire qu'on va pouvoir bientôt aller dans l'espace, aller loin dans l'espace, et dans ces cas-là, si on peut produire de la nourriture directement sur place dans le vaisseau, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je pense que cette information est quand même géniale, parce qu'il y a quelques années, jamais on aurait dit, on va emmener une imprimante 3D, puis elle va nous imprimer, entre guillemets, une côtelette de veau, quoi. Eh bien si, maintenant c'est possible. C'est ça la science et la technologie, ça va à une vitesse folle, alors que vous êtes peut-être en train de déjeuner votre tranche de jambon tranquillement chez vous, ben je vous souhaite un bon appétit, mais dites-vous que maintenant, les cosmonautes sont en train d'en manger la même, avec leur imprimante 3D. Allez, qu'on écoute un peu de musique, parce que je pense qu'il va falloir à un moment nous poser et réfléchir à toutes ces informations. Et puis on se retrouve après pour parler cette fois du prix Nobel de physique. Et là, on va encore repartir dans l'espace.
Oh,
Summarize, c'était Petrol sur l'entraîne de Graphite. Vous écoutez Beauty In tous les samedis 12h-13h sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé grâce au podcast sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Normalement je crois qu'il y a la rediffusion aussi parce que là nous sommes le samedi, mais la rediffusion le mardi matin également, donc je vous souhaite une bonne matinée si vous nous écoutez pour cette rediffusion. Nous sommes en train de faire le point sur l'attribution des différents prix Nobel et on va donc terminer avec le prix Nobel de physique, alors qu'il ne déçoit pas du tout, parce qu'en fait c'était un petit peu attendu. N'ont pas déjoué les prédictions, les membres de l'Académie royale des sciences de Suède. C'était fait de longue date et donc ils ont attribué ce prix Nobel pour les découvreurs de la première exoplanète en orbite autour d'une étoile, c'est-à-dire les Suisses Michel Mayer et Didier Queloz. Et puis l'autre moitié du prix Nobel, c'était aussi attendu depuis longtemps, cette attribution du Nobel à James Pilbes, un grand cosmologiste d'origine canadienne qui obtient donc la seconde moitié du prix. Alors, on sait aujourd'hui que les exoplanètes, elles sont nombreuses dans la Voie lactée. Alors, il y a un site, le site de l'Encyclopédie des planètes extrasolaires, qui a été fondé par l'astronome français de l'Observatoire de Paris, Jean Schneider. Et ce site répertorie un petit peu le nombre d'exoplanètes qui existent. Et on en est aujourd'hui, en octobre 2019, à plus de 4000 exoplanètes répertoriées. Donc voilà, on sait, mais en fait, ça n'avait rien d'évident pour beaucoup d'astronomes de la première moitié du XXe siècle à cause des modèles de la formation du système solaire qui faisaient souvent naître les planètes à partir de rares rencontres entre les étoiles de notre galaxie. Et finalement, eh bien, on se rend compte que ce début du XXIe siècle a donné raison aux intuitions un peu visionnaires de plusieurs philosophes grecs, Démocrite, Anaximandre en particulier, qui croyaient en la pluralité des mondes il y a plus de 2000 ans. La découverte donc de Michel Mayer et Didier Queloz est donc un tournant essentiel dans l'histoire de l'humanité parce que ça illustre une fois de plus le fait qu'en empruntant les chemins tracés par Platon et Descartes, nous sommes en mesure de faire passer des spéculations philosophiques au statut de réalité scientifique indiscutable, un processus que l'on espère poursuivre aussi loin qu'il est possible. L'autre donc récompensé, c'est James Pilbes, l'un des grands acteurs de la mise en place du modèle de la cosmologie standard et qui a été l'un des pionniers de la théorie du Big Bang depuis la découverte du rayonnement fossile en 1965. Il reçoit donc l'autre moitié de ce prix Nobel de physique. Et donc, James Pilbes, il est l'un des pionniers de l'étude donc, de ce rayonnement fossile et de ses rapports avec la naissance des galaxies et des grandes structures qui les rassemblent. Il contribue également au début des calculs précis sur la synthèse de l'hélium, c'est-à-dire un petit peu, on en est presque à la création de l'univers. On parlait bien sûr du Big Bang. Il va devenir en quelque sorte la figure majeure de la cosmologie des États-Unis des années 70 et des années 1980. Et il a donc été récompensé par ce prix Nobel. Il était temps, je ne sais pas quel âge il a, tiens, j'ai pas mentionné son âge. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, voilà, il a également été récompensé par le prix Nobel de physique. Donc on est bien sur la récompense des pionniers des exoplanètes et du Big Bang. Alors, on a interviewé l'un des lauréats du prix Nobel de physique, c'est Michel Mayer, qui est donc un petit peu un chercheur d'exoplanètes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été ensuite interviewé et il a averti en fait, qu'il ne fallait pas du tout compter un jour sur une migration de l'humanité vers une autre planète. En fait, il s'est exprimé en marge d'une conférence près de Madrid, où on l'interviewait la semaine de la remise de son prix Nobel, et on lui a demandé alors quelles recherches ont été récompensées par ce Nobel, lui demande-t-on. Donc il explique que voici 24 ans avec un de mes collègues, Didier Queloz, donc qui est distingué avec lui, on a découvert, dit-il, la première planète qui tournait autour d'une autre étoile que le Soleil. C'était une très vieille question qui était débattue par les philosophes. Est-ce qu'il existe d'autres mondes dans l'univers l'univers. Et depuis lors, on en a découvert, donc, comme je vous l'ai dit, plus de 4000. On cherche des planètes qui sont le plus proches de nous, qui pourraient ressembler à la Terre. Nous avons donc, avec mon collègue, démarré cette quête des planètes. On a montré que c'était possible de les étudier. Autre question importante, y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers ? Réponse de Michel Mayer, prix Nobel. Dans la Voie lactée, on est sûr qu'il y a énormément de planètes rocheuses avec une masse similaire à la Terre, à une distance telle de leur étoile que la température est adéquate pour que la chimie de la vie se développe. On ne sait rien de plus. Personne n'est capable de donner une probabilité à la vie ailleurs. Certains scientifiques disent que si toutes les conditions sont réunies, alors la vie va émerger d'elle-même, une sorte d'émergence naturelle des lois de l'univers. D'autres disent non, non, c'est pas vrai, c'est beaucoup trop compliqué. Bref, on n'en sait rien. La seule manière de faire, c'est développer les techniques qui nous permettent de détecter la vie à distance. C'est à la prochaine génération de répondre à cette question, dit-il. Dernière question, l'humanité pourra-t-elle migrer vers une autre planète ? Michel Mayer dit que si on parle des planètes extrasolaires, que les choses soient claires, on ne migrera pas là-bas. Ces planètes sont beaucoup, beaucoup trop loin. Même dans un cas très optimiste d'une planète habitable pas trop loin, disons à quelques dizaines d'années-lumière, ce qui est tout petit, le voisinage, le temps pour aller là-bas est considérable. Ça se chiffre en centaines de millions de jours avec les moyens actuels. Prenons soin de notre planète ici, dit-il, elle est très belle et encore tout à fait habitable. Il faut tuer toutes les déclarations du type, nous irons un jour sur une planète habitable si la vie n'est plus possible sur Terre, c'est complètement fou. Fin de citation de Michel Mayer qui nous dit donc qu'il ne faut pas compter aller sur d'autres planètes. En tout cas, avec les moyens actuels de déplacement. Plus tard, on verra. La science et la technologie vont très vite. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu les déclarations de ces prix Nobel. Mais c'est toujours intéressant parce que ces gens ont travaillé sur des sujets pendant tant d'années et se sont posés des vraies questions pour lesquelles aujourd'hui, même lui, prix Nobel, n'a pas de réponse. Il n'en sait rien s'il y a une vie ailleurs. Mais on est toujours un petit peu dans cette suspicion, enfin c'est peut-être un mot fort, suspicion, mais en tout cas interrogation en se disant mais ah, et ailleurs si ça pouvait exister, étant donné qu'on a parfois l'impression que la condition qui a existé sur Terre pour faire naître la vie peut également éventuellement exister ailleurs. Mais on n'en sait toujours rien, en tout cas on n'en a toujours pas la preuve. C'était Biotine, l'émission de science tous les samedis. Sur l'antenne de Graphite, hein, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur la bande FM 94.9, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé. Si vous avez la possibilité de pouvoir télécharger les podcasts de toutes les émissions de Graphite. On se retrouve samedi prochain, on sera début novembre. Alors, je voulais parler de plein de choses, mais je n'ai pas bien eu le temps. On parlera de la découverte encore de dernières étendues d'eau sur Mars pour rester dans l'espace. On parlera également, je suis en train de feuilleter un petit peu, l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'avoir des robots domestiques pouvant aider les seniors. On est vraiment dans une partie justement de l'autonomie des personnes âgées et pouvoir un petit peu améliorer et favoriser les bonnes conditions de ces personnes âgées. Donc il y a des choses maintenant qui se développent, notamment grâce à la robotique et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Mais écoutez, comme c'est la fin de cette émission, on en parlera la semaine prochaine pour faire un point voilà, sur le reste de l'actualité où on sera début novembre. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèle à l'ensemble des émissions et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir, merci.